Et puis en y travaillant, bien sûr, il m'a semblé qu'on pouvait préciser les choses. Hein, et donc ce que je vais faire, c'est un état des lieux à mi-parcours. Il y a évidemment beaucoup de jeux de mots sur le mot parcours. J'en ai vu d'ailleurs en arrivant ici, hein, ce matin même, une brochure de l'IFE sur les lycées à la croisée de tous les parcours. Vous voyez, on va parler de ce terme de parcours. C'est un terme qui est très utilisé hein, dans tous les domaines de l'éducation et pas seulement dans l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur et dans d'autres domaines également. Alors juste pour me situer un peu plus précisément, je vais vous parler de cette direction de l'enseignement scolaire. Je crois que c'est important parce que je sais bien qu'on mesure mal ce que peut être une administration de ministère, ce à quoi elle sert également. Un enseignant évidemment en contact, peut-être pas quotidiennement, mais régulier avec les corps d'inspection. IUN pour le premier degré, IAIPR pour le second degré. On entend parfois parler de ce qui se passe à Paris, de ce qui se trame rue de Grenelle, hein, par le biais d'inspecteurs généraux également, mais on ne voit pas tellement ce que peut bien faire une direction d'enseignement scolaire. Alors cette direction, le lien n'est pas très rapide, voilà. Alors c'est la direction qui prend en charge tous les aspects de l'enseignement scolaire, hein, c'est-à-dire à la fois la vie scolaire, la vie des établissements, mais aussi les programmes d'enseignement, en tout cas jusqu'en octobre dernier, hein, puisque le ministre a installé un conseil supérieur des programmes qui est détaché de la direction générale de l'enseignement scolaire maintenant, donc depuis quelques mois. Je vais juste balayer rapidement hein, l'organisation, l'organigramme de cette direction. Vous voyez qu'on s'y occupe d'abord, et c'est la première sous-direction du socle commun. On y retrouve traditionnellement les bureaux des écoles, des collèges, ensuite les lycées, la voie professionnelle, les questions de handicap, d'orientation. Ça, c'est le premier service, hein, c'est le service de l'instruction publique et de l'action pédagogique. Et puis un deuxième service, qui est un service budgétaire, qui s'occupe aussi de la performance des établissements. C'est là que sont concentrés tous les crédits de l'éducation nationale, enfin pas tous les crédits, hein, mais la majeure partie. C'est la direction, disons, qui a le plus gros budget, hein, c'est à peu près 60 milliards d'euros, hein, qui touche en grande partie les salaires des enseignants, hein, mais aussi les crédits d'intervention. Voilà, donc nous y sommes. Et dans ce service du budget de la performance et des établissements, qui gère donc les programmes LOLF, hein, les programmes budgétaires, et non plus les programmes pédagogiques, comme dans le service A. Vous avez également toute la question du dialogue entre l'administration et les académies, et les rectorats. Hein, dialogue financier, mais dialogue également d'objectifs, hein, et qui touche bien sûr à l'action pédagogique. Et puis tout en bas de l'organigramme, vous avez mon bureau. Voilà, hein, c'est le... Ah pardon. Alors là, il y a un problème technique parce que moi, j'ai sous les yeux la page internet. C'est bien dommage. Bon, c'est pas grave, hein, sinon j'en parlerai sans problème. Mais l'idée, c'était que...
En fait, il faut
qu'on soit un peu moderne.
On ne peut pas afficher à la fois le diaporama et...
Ah bon ? Bon, ça va être un peu compliqué, ça.
Mais je reste à côté.
D'accord. C'est pas du tout ce que j'ai à mon écran, voilà. Et je peux faire défiler quand même. D'accord, voilà. Oui, donc tout en bas, vous avez ce bureau, hein, voilà, ici. Voilà. Hein. Alors, c'est le dernier bureau. Hein. C'est pas dire que c'est le moins important, mais depuis quelques années, il est en général, disons, la dernière case, hein, d'une sous-direction en tout cas. Il y a quelques années, jusqu'en 2006, c'était le bureau A9, hein, le 9e bureau d'une sous-direction qui comprenait école, collège, lycée, programme d'enseignement, hein, la pédagogie. Et on avait l'action éducative complémentaire, disons, en plus hein, de ces bureaux pédagogiques. Hein. Là, en revanche, c'est une autre structuration, c'est important de le noter. Hein, on est dans la sous-direction des actions socio-éducatives, qui s'occupe également de l'égalité filles-garçons, de la lutte contre les discriminations, des questions de prévention, de santé, de nutrition, et de toute la vie scolaire, qui prend en charge également les relations avec les parents, par exemple. Voilà. Donc c'est important de voir où se situe l'éducation artistique et culturelle du point de vue de l'organisation du ministère actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien avec la pédagogie, bien sûr. Hein, les liens se font, mais disons que par la structuration du ministère, on est d'abord rattaché à l'action socio-éducative. Je vais revenir au PowerPoint.
Ah oui, il faut que je regarde ici, en fait. D'accord. Et là, d'accord. Ah oui.
D'accord. Les problèmes de culture. Alors, je suis toujours dans un préambule. Hein, je n'attaque pas d'emblée la matière du parcours, mais je pense qu'il faut poser quelques éléments pour commencer. J'ai lu récemment ce livre de Johann Huizinga, que vous connaissez peut-être, Homo Ludens, hein, qui évoque la question du jeu, l'importance du jeu. Et il y a une citation qui me paraît très en adéquation avec l'approche que je peux avoir de l'éducation artistique et culturelle, mais il ne s'agit pas que de moi, je pense. Hein. Il dit, au moment de publier cet ouvrage, je crains qu'en dépit de tout le travail qu'il comporte, il ne soit considéré par beaucoup comme une improvisation ou une étude insuffisamment documentée. C'est là le sort réservé à quiconque veut traiter des problèmes de culture que de s'aventurer sur des terrains variés qu'il ne possède pas à fond. Ça pour dire que je ne prétends pas apporter un éclairage et disons des réponses toutes faites. Hein. Il s'agit d'abord d'explorer, hein, même si c'est d'un point de vue administratif, hein, mais quand même il y a une matière très importante hein, dans la norme. Hein, j'ai bientôt parlé de tous ces textes normatifs et je pense qu'il faut les relire, hein, même si on pense les connaître ou si on pense qu'il n'est pas utile de les lire pour plein de raisons. Hein. Voilà, alors une fois posées ces précautions oratoires, je souhaite vous dire quelques mots de mon rapport personnel à l'éducation artistique et culturelle. Ça aussi, c'est important pour se situer. D'abord, je viens du terrain, hein, comme pas mal d'entre vous, c'est-à-dire j'étais enseignant pendant presque 10 ans de lettres. J'ai eu une pratique, disons, périscolaire, en conduisant des ateliers de pratique artistique, en ayant des options théâtre facultatif, par exemple. Et des ateliers dans différents domaines, hein, photographie, musique et théâtre. Voilà. Voilà, alors le tâtonnement, l'expérimentation, la curiosité, les moyens ou pas de moyens, hein, j'ai connu les deux. Hein, j'ai eu des ateliers pendant l'âge d'or des années 2001, 2002, 2003, avec pas mal de moyens, des HSE, etc. Et puis après j'ai continué sans moyens, ou avec d'autres moyens, dans d'autres établissements, des fonds européens par exemple. Donc les dossiers, j'ai bien connu ça, hein, la constitution des dossiers, les justifications, les comptes rendus, etc. Voilà, alors qu'est-ce qui a pu m'amener à la DGESCO, puisque j'ai une pratique d'enseignant, disons, épanouie, enfin je pense, sans prétention, hein, mais je m'y trouvais très bien. C'est un peu le hasard, un concours de circonstances, puis une curiosité aussi hein, de voir comment ça peut se passer. Pas dire de l'autre côté, mais rue de Grenelle, en tout cas, là où on n'a aucune idée, quand on est enseignant, en tout cas c'était mon cas, de ce qui peut bien se faire et comment, et pour quelles raisons. Et puis quand je me suis retrouvé au ministère, au bout de quelques jours, mon encadrement m'a demandé, ma chef me convoque, il me dit « Pierre, en 30 secondes, est-ce que vous pouvez me dire la différence entre un atelier artistique et une classe à Pâques ?» Voilà. Elle-même avait été nommée très récemment, puis il fallait clarifier les choses. Voilà. Donc il y a un travail assez long hein, d'explication. Il faut rentrer dans cette matière institutionnelle. Donc je vous propose de le faire. Je m'inquiète de voir ce qui s'affiche. Alors je vous propose très classiquement d'aborder la chose en trois parties. Puis j'essaierai de tenir le temps. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai la parole. Oui, d'accord. D'accord. Alors, premier point, à quoi rime l'éducation artistique et culturelle? Je vous proposerai un parcours dans 30 années de textes normatifs. Alors, c'est beaucoup. Hein. Il y a, je pense, une pile de textes. Hein. Donc, évidemment, j'ai fait une sélection. Mais je pense que c'est intéressant d'y revenir pour voir comment on arrive à ce parcours aujourd'hui, depuis 2013. Dans un deuxième temps, j'évoquerai la maturité de l'éducation artistique et culturelle, hein, parce que je pense qu'au bout de ces 30 années, on arrive à une certaine maturité du point de vue des pratiques, notamment des pratiques professionnelles, hein, celles des enseignants, puis celles de l'encadrement également, pratiques de pilotage. Maturité et fragilité, hein, parce que j'entends bien, nous l'entendons constamment, qu'il semble que les choses soient remises en cause pour diverses raisons, notamment financières. On dirait qu'il faut constamment raviver la flamme. Et puis un troisième point, parce qu'il me semble, mais je me suis peut-être trompé, qu'il y avait un axe un peu éducation prioritaire dans cette formation. Donc la question de savoir si l'éducation artistique et culturelle est prioritaire dans l'éducation prioritaire. Alors, les grandes étapes historiques de la construction de l'éducation artistique et culturelle, je vais vous les présenter telles que les définissent plutôt Marie-Christine Bordeaux et François Deschamps dans leur livre récent « L'éducation artistique, l'éternel retour » publié en juin-juillet dernier. Alors, les années 60 et 70, ce sont les années de l'expérimentation, je n'en parlerai pas, hein, je n'ai pas pris des textes sur cette période. Il y a une date importante, par exemple, c'est 74, hein, la création des classes à horaires aménagées musique. Les années 80, j'en parlerai, c'est les années de l'innovation institutionnelle et de la formalisation des pratiques. Les années 90, l'extension, la territorialisation, les années 2000, la généralisation, et puis les années 2010, nous allons voir. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup de 3 dans ces années, hein, 83, 93, je parlerai de 2003, et puis 2013. Hein. Alors en 83, c'est le protocole d'accord d'avril 83, un texte important, un texte fondateur. C'est le texte notamment qui donne l'impulsion pour la mise en place des premières options facultatives. Alors il y aura quelques citations. C'est pour ça que je vous disais que c'est important de relire certains textes ou de les lire. On n'est pas supposé avoir lu tout l'arsenal normatif des ministères de l'Éducation nationale et de la culture, mais c'est important de voir ce qui s'est dit déjà il y a 30 ans. Il était question, dans le premier point, d'améliorer la coordination de la politique éducative et de la politique culturelle. Je cite, « La concertation entre les deux ministères et les collectivités locales sera encouragée, ainsi que la passation de conventions tripartites de développement culturel. » 83, ce sont des choses qui ont été énoncées récemment, qui sont constamment redites. C'est déjà dans le premier protocole de 83. Des programmes conjoints de développement des formes d'expression artistique et des pratiques culturelles seront mis en œuvre, ainsi que des chantiers conjoints entre les deux ministères. On voit comment s'énonce, hein, du point de vue de la norme, le partenariat entre les deux ministères. Hein, donc nous avons bien 30 ans, hein, d'un partenariat éducation-culture inscrit dans des textes normatifs. Un deuxième point dans ce protocole de 83, faciliter la rencontre des deux secteurs, hein, toujours cette même idée. Les deux ministères organisent conjointement des actions de formation fondées sur la rencontre de personnel de l'éducation nationale, de responsables et de professionnels du secteur culturel. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, on a dans l'assistance des personnes qui relèvent des deux sphères, hein, éducation et culture. Donc nous sommes bien sur cette lignée. Des systèmes d'incitation et d'aide aux initiatives conjointes des équipes éducatives et des organismes culturels seront mis en place. Troisième point, la collaboration en matière de formation. Quatrième, la collaboration des établissements scolaires et des organismes culturels. Là, c'est le partenariat des 83 encore au niveau local. Nous arrivons en 88, date importante puisque c'est l'inscription dans la loi des enseignements artistiques, c'est la première fois. Cette loi donc, de 88 relative aux enseignements artistiques préconise notamment l'ouverture des établissements scolaires aux personnes, je cite, « justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine, qui peuvent apporter leur concours aux enseignements. » Expression qu'on retrouve dans de nombreux textes hein, jusqu'à maintenant, « apporter son concours aux enseignements ». On est toujours dans cette... disons dans ce lien, hein, ce lien fort, le partenariat, apporter son concours, mais le concours d'abord aux enseignements, hein, aux fondamentaux. Alors, 10 ans plus tard, 1993, autre protocole d'accord. Vous voyez les quatre entités ministérielles signataires, éducation nationale, culture francophonie à l'époque, enseignement supérieur et recherche et jeunesse et sport. C'est ce que Marie-Christine Bordeaux appelle l'extension et la territorialisation. On réaffirme les grands axes du protocole de 83. Il y a une insistance sur la formation des enseignants. L'évolution et le développement des enseignements et des pratiques artistiques passent bien entendu à tous les niveaux par une amélioration de la formation initiale et continue des enseignants du primaire et du secondaire. On insiste sur ces deux dimensions, formation initiale et continue, dans ce protocole. Et outre la rénovation nécessaire de la formation des professeurs spécialisés en art, il conviendra, dit le texte, de s'intéresser au plus vite à la formation dans certains domaines artistiques des professeurs de discipline générale. Alors on a parlé d'histoire des arts en 2008. Hein, depuis l'arrêté d'organisation d'enseignement d'histoire des arts en 2008, les programmes ont été refondus de façon à introduire dans chacun d'eux une dimension histoire des arts. Hein, mais les jalons sont posés depuis. Ils étaient posés depuis 15 ans. Hein. Alors, je passe rapidement hein, les différents axes de ce plan, hein, mais le renforcement du partenariat, la consolidation des enseignements et pratiques artistiques dans le temps scolaire, la formation des enseignants, le développement de plans locaux pour l'éducation artistique, les PLEA, il y aura aussi les CLEA, hein, qui sont toujours pratiqués, hein. L'aménagement du temps scolaire et les rythmes de vie des enfants et des jeunes, hein, question qui est toujours d'actualité, évidemment dans un contexte différent, hein, mais... La question se pose déjà en 93, et l'emploi. Vous voyez qu'on parle de renforcement, de consolidation. Les pratiques se sont déjà développées. On est plutôt dans une phase de renforcement, où on essaie de conforter les pratiques, à la fois les pratiques des acteurs de l'éducation, les enseignants, les partenaires du monde de la culture, mais également dans les rectorats, les directions des affaires culturelles, pour le pilotage. Alors voilà comment se présente une circulaire. Je vous l'ai dit, hein, ce sera une entrée administrative. Il y a un décryptage du paratexte qui peut se faire et qui n'est pas inintéressant. On a ici un texte interministériel, hein, MEN, ministère de l'Éducation nationale, DESCO, direction d'enseignement scolaire, A9 dont je vous parlais tout à l'heure, et puis MCC, ministère de la Culture et de la Communication, l'éducation artistique et culturelle, de la maternelle à l'université. Et il s'agit de la mise en œuvre. C'est à l'époque Claude Allègre, Catherine Trottmann, et Ségolène Royal également pour le ministère délégué. Il est précisé que le recteur et le DRAC réuniront chaque année une conférence régionale pour dresser un état des lieux des ressources et dispositifs de l'Académie, arrêter des priorités en matière de public et d'aménagement du territoire et coordonner les actions en partenariat. Susciter et développer des partenariats avec les collectivités territoriales, mettre en place les formations nécessaires, évaluer les actions mises en place. Autant d'objectifs que l'on retrouvera constamment jusqu'à maintenant, jusqu'au texte de 2013. Le diagnostic, la concertation, l'évaluation. Tout ça est déjà précisé très clairement. Il s'agit à l'époque de conférences régionales. On a maintenant des comités de pilotage territoriaux, et puis ces appellations évoluent. Mais bref, c'est toujours quand même le même principe, très simple, finalement, du partenariat. Pas forcément facile à mettre en œuvre, évidemment. Alors les années 2000, hein, les années de la généralisation, le plan à 5 ans, qui précise que les conventions pluriannuelles négociées par les DRAC avec les rectorats et les inspections d'académie permettent de fixer les stratégies et les modalités de mise en œuvre en prenant mieux en compte l'aménagement culturel du territoire. De telles conventions ont déjà été signées dans les trois quarts des régions. D'ici 2002, la totalité des régions doivent établir des conventions. C'est une conférence de presse en 2000. On y voit une politique volontariste, réellement. C'est également la période en fait, où concrètement, hein, on essaiera de traduire cette volonté dans l'action pédagogique par la généralisation des classes à PAC, hein, des classes à projet artistique et culturel. Le texte sera publié en 2001 au bulletin officiel. Et presque simultanément, c'est le texte sur les ateliers artistiques. Il s'agit également de généraliser les services éducatifs et d'action culturelle, hein, des services éducatifs qui restent très importants pour ces relations entre le monde de l'éducation et le monde de la culture. Hein, pas mal d'enseignants, à peu près 1200 actuellement hein, sur le territoire national. 1200 enseignants sont missionnés dans des services éducatifs de structures culturelles. Voilà, et donc j'en ai parlé, hein, c'est la généralisation des conventions entre les DRAC et les rectorats. Alors, la question de la politique durable. On a une mise en place, une mise en œuvre, une consolidation, un renforcement, puis une généralisation. Alors évidemment, je ne vais pas faire toute l'histoire, hein, mais on sait que le plan à 5 ans n'a pas duré 5 ans, qu'il y a eu une rupture, hein, que les classes à PAC n'ont pas été généralisées, que les moyens ont fortement diminué. Mais je dois dire qu'en tant qu'enseignant ou qu'ancien enseignant, j'ai toujours entendu dire que les crédits étaient en baisse, et même, je crois, en 2000-2001. Hein, il y a toujours eu cette alerte. Alors cette question de la politique durable, elle apparaît, j'aurais pu mettre des guillemets, dans une autre circulaire en 2003. Hein, c'est cette circulaire de rupture. Et je parlais du paratexte, c'est important parce que là vous voyez que c'est un texte qui ne relève que du ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire tout à coup, le ministère de l'Éducation nationale seul hein, donne des orientations pour l'éducation artistique et culturelle partenariale. Ça arrive dans l'histoire de l'éducation artistique et culturelle. Ça peut s'apparenter à une rupture, et pourtant le texte veut donner des orientations, comme il l'énonce, pour une politique durable, puisqu'il s'agit de travailler à une meilleure lisibilité du dispositif des enseignements artistiques et de l'action culturelle. Il s'agit de compléter, de diversifier, de réactualiser régulièrement les programmes d'enseignement à tous les niveaux, stimuler le recrutement des maîtres du second degré, améliorer la formation des maîtres des premiers et second degrés, ainsi que celle des enseignants-chercheurs, renforcer l'encadrement, le pilotage de l'enseignement scolaire, redéfinir, redynamiser les partenariats avec le ministère de la Culture, avec les collectivités territoriales, les associations qualifiées, développer une nouvelle coopération européenne, rénover, réactiver le Haut Comité des enseignements artistiques. Le texte est signé par Luc Ferry et Xavier Darcos, qui est alors ministre délégué. On peut se demander comment on peut mener une politique de partenariat durable, effectivement, dans un texte qui est énoncé par le ministère de l'Éducation nationale seul. Et ce n'est pas anodin, hein, évidemment. C'est quand même d'abord par une concertation au niveau national que les choses peuvent se passer au mieux jusqu'au niveau local. Alors évidemment, il n'y a pas de porosité, hein, il n'y a pas d'échange entre les deux. Mais le national donne les orientations aux administrations déconcentrées, aux DRAC, aux rectorats, au niveau départemental. Enfin, tout ça a une importance quand même. Hein. On sent parfois hein, la difficulté, et la difficulté, elle vient parfois d'en haut. Hein. Alors, dans ce texte de 2003, il s'agissait également d'avoir une meilleure répartition de l'offre éducative et culturelle sur le plan territorial. Une offre mieux organisée, avec un pilotage en partenariat. Je passe. Hein. Alors en 2008, on a beaucoup parlé de la généralisation. J'étais à l'époque au ministère, j'étais chargé d'études hein, dans les domaines de musique, théâtre, arts plastiques. Et puis de manière très transversale, j'ai eu la mission de coordonner la circulaire interministérielle. Alors, pas du tout dire que j'en sois l'auteur. Hein. C'est écrit à de nombreuses mains. Il y a eu quelques dizaines de versions qui sont passées entre les administrations centrales des ministères, les cabinets respectifs, et puis Matignon et l'Élysée. Hein. C'est un texte qui a été commandé du plus haut niveau, comme on dit, hein, qui déclinait en fait, dans son plan, dans sa structure, une réunion interministérielle qui avait eu lieu dès juillet 2007. Et le texte a été publié au BO en mai 2008. Voilà. Le plan est resté le même. Le contenu, évidemment, a évolué. Hein, mais tout ça était disons, conçu au plus haut niveau politique. Alors, la généralisation, on en parlait beaucoup à l'époque, disais-je. Hein, un peu comme si on n'en avait pas encore déjà parlé en 2000. Hein. Enfin, là, je vous parle de mon expérience hein, dans l'administration. Il y a quand même une dimension réelle, je pense, la généralisation, c'est une nouveauté, c'est l'introduction de l'enseignement de l'histoire des arts. C'est le premier chapitre de cette circulaire, c'est pas rien. Il y a eu quelques mois après, en août 2008, cet arrêté d'organisation assez copieux, hein, mais qui révolutionne en quelque sorte quand même l'enseignement. Et puis après, une déclinaison dans tous les programmes d'enseignement, hein, pour chaque discipline. Et puis c'est un texte très nouveau dans le sens où il donne des indicateurs chiffrés au recteur. Chaque recteur, au-delà de la publication au bulletin officiel de la circulaire, chaque recteur a reçu sa fiche avec des indicateurs chiffrés pour le développement notamment du volet culturel des projets d'établissement. L'obligation d'inscrire dans le projet d'établissement une dimension artistique et culturelle, obligation 100% pour la rentrée 2009. Multiplication des classes horaires aménagées par 4 en 5 ans, hein, jusqu'à l'horizon 2012. Objectif qui n'a pas été atteint, hein, ça demande des moyens considérables. Le développement de l'éducation artistique et culturelle dans l'accompagnement éducatif, hein, qui était une nouveauté également à l'époque depuis 2007, avec un pourcentage hein, indiqué pour chaque recteur en fonction du diagnostic qui avait déjà été fait dans l'année scolaire 2007-2008. Hein, ça variait entre, si nous sommes bien, 25 et 33% hein, suivant les réussites déjà observées dans les académies. Et puis développement d'une option histoire des arts dans les pôles d'excellence du plan Espoir banlieue, dont on a pu parler dès 2010. Voilà, donc je passe les points. Ça c'était le plan en histoire des arts, pratique, rencontre. Et les conditions de la généralisation qui étaient la formation et les ressources, et notamment les ressources numériques. Alors là, je vous passe parce qu'il y aura une question de temps, hein, mais je pensais renvoyer à toutes les autres circulaires, à tous les autres textes. Hein. Il y a des textes évidemment beaucoup plus ciblés qui vont parler des pratiques instrumentales collectives, des pôles de ressources à l'éducation artistique et culturelle pour la formation, du développement des chartes de développement des pratiques vocales et chorales. Il y a une circulaire sur l'essor de la vie culturelle au lycée en 2010, un texte sur les résidences d'artistes en milieu scolaire en 2010 également, hein, donc de nombreux textes du ministère de l'Éducation nationale ou conjointement avec la culture dans cette période. Hein. C'est-à-dire on a avancé quand même, hein. Il y a des choses qui ont été faites et je parlerai peut-être tout à l'heure des résidences d'artistes. On a quand même, je pense, posé des éléments intéressants hein, pour leur développement encore actuellement. Alors l'État et sa posture, j'ai lu pour préparer cette conférence divers documents, notamment des documents émanant de syndicats, de fédérations de parents d'élèves, et puis vous connaissez peut-être le collectif Canopéa, hein, qui se propose de réfléchir aux questions d'éducation artistique et culturelle. Puis j'ai lu une citation qui a retenu mon attention sur la posture de l'État, hein, l'État qui a un discours descendant, qui dit fait, c'est comme ça qu'il faut faire, et qui ne tient pas compte nécessairement de la réalité du terrain, comme on dit souvent, ou de la réalité des institutions telles qu'elles vivent au plan régional. Alors voilà ce que j'ai lu hein, dans ce document que vous trouverez en ligne hein, de Canopéa, qui fait état de débats hein, dans différentes rencontres. Il faut absolument que l'État, dans sa posture, sorte d'une certaine hypocrisie qui consiste à dire ce que devraient être les choses, alors même que l'on sait bien que la mise en œuvre de ces choses-là suppose un partenariat dynamique et organisé au niveau des territoires et autour des collectivités. Alors, je pense qu'il y a une réelle prise en compte maintenant, enfin, ça fait quand même 30 ans, hein, on l'a vu des textes de 83, il y a une prise en compte des collectivités. En 83, le protocole dit vous passerez des conventions rectorat, DRAC, collectivité. Bon, c'est le début de la décentralisation, mais d'emblée, les collectivités sont prises en compte. Alors, on a souvent dit, on le disait en 2008, au moment de la préparation de cette circulaire interministérielle, que oui, le partenariat il existe, mais on a tendance à considérer qu'un conseil général a d'abord pour mission de payer les transports pour le déplacement des élèves à l'occasion de sorties culturelles. Voilà, ça s'entend évidemment. L'idée, c'est quand même maintenant de pouvoir associer les collectivités à la construction des projets. Ça, je pense que ça se fait de plus en plus. En tout cas, on y incite. C'est les retours que je peux avoir me laissent penser que ça se fait de plus en plus, dans un contexte de resserrement des moyens, bien sûr, aussi bien pour les collectivités que pour les administrations de l'État. Avec ou sans convention, c'est une question brute, j'aurais pu mettre des guillemets là aussi, qui a été posée vendredi dernier. J'animais une journée de rencontre des délégués académiques à l'éducation artistique et à l'action culturelle. 30 délégués, par académie, même le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, à la pause, deux délégués se questionnaient. Est-ce que tu as une convention de rectorat? Voilà, l'une en avait, l'autre non. Qu'est-ce que ça change, hein? Alors moi, je pense que la convention a toute son importance. Hein. Finalement, ça permet de partager des objectifs. Hein. Et en cas de difficulté, ça permet de se raccrocher un texte commun qui a peut-être été signé par d'autres, hein, par un précédent DRAC, par un précédent recteur. Et c'est signé pour plusieurs années. Et c'est une base commune de travail. Hein. Ça évite de faire la révolution un peu trop souvent. Par ailleurs, le rapport de l'inspection générale de 2012 sur les dispositifs d'éducation artistique et culturelle a fait le point sur ces conventions et insiste là aussi sur leur importance. Ce rapport dit, c'est un rapport des inspections générales culture et éducation, l'intérêt des conventions entre l'État et les collectivités territoriales destinées à encadrer et financer les projets territoriaux d'éducation artistique et culturelle doit être rappelé. La convention a en premier lieu le mérite de rendre visible le rôle moteur du partenariat mieux que ne peut le faire le soutien apporté par chacun des partenaires aux initiatives des acteurs de terrain. Alors, je n'irai pas sur Internet, ça va nous faire perdre du temps. Mais vous en avez des exemples en ligne, c'est intéressant, je pense, aussi de voir comment sont formulés les objectifs. Alors, croisement, pour moi, ce sont les croisements des projets. Les projets éducatifs des structures culturelles, les projets culturels des établissements d'enseignement scolaire, les projets éducatifs et culturels des collectivités territoriales. Et c'est le texte sur la dimension éducative et pédagogique des résidences d'artistes, texte commun au ministère de la Culture, au ministère de l'Éducation nationale, qui le précise très, très clairement, qui énonce ces échanges. Ces échanges entre les structures, elles ont une mission première, bien sûr, culturelle, éducative. Mais elles ont, au sein de cette mission principale, la mission de l'autre, la mission du partenaire, qui est prise en compte de manière très, très engagée, très, très sérieuse, avec des moyens, des personnes qui sont formées. Et ces personnes, a priori, ont fait en sorte qu'elles soient formées conjointement, qu'elles bénéficient d'un discours commun. Voilà donc ce que je viens de vous dire. Là, c'est tel que c'est énoncé dans la circulaire. Alors, je passerai par une image. C'est l'image de la veine pâture. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la veine pâture. Voilà. Alors, je vais vous dire ce qu'en. Enfin, comment dire. La définition qu'en donne Wikipédia. Vous verrez où je veux en venir. Au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, la veine pâture est un droit d'usage qui permet de faire paître gratuitement son bétail en dehors de ses terres. Dans les bords des chemins, les friches, les terres nues de leur culture, les bois de haute futaie, les taillis de plus de 4 ou 5 ans. Où l'on apprend que le parcours est également un droit de veine pâture que s'accordent réciproquement deux paroisses voisines. À l'époque féodale, le propriétaire d'un terrain en perd l'usage après la moisson ou la première coupe pour une prairie. Les chaumes, le regain appartiennent à la communauté et peuvent être utilisés librement par quiconque. Il en est de même pour les terres sur la sole en jachère. Ça m'intéresse beaucoup parce que le parcours, on le conçoit, j'y viendrai, comme un parcours qui progresse comme un chemin, hein, mais le parcours c'est aussi, je pense, et c'est important de le dire peut-être et d'utiliser ce sens ancien historique, hein, le parcours c'est cette possibilité d'aller paître chez le voisin. Hein, voilà. Je pense que c'est ce que l'éducation peut faire à la culture et ce que la culture peut faire dans la pédagogie. Donc le parcours, nous y sommes. Il y a cette dimension évidemment de progression, de but, de construction de l'enfant, du jeune, pour en faire un adulte qui sera éclairé. Mais il y a aussi cette dimension de partenariat qui est pour moi dans la veine pâture. Et puis évidemment, il y a toutes ces images de la pâture, je pense, qui peuvent nous éclairer, mais aussi nous mettre en joie au-delà des textes administratifs et des questions de pilotage. Hein, je pense que c'est à utiliser. Alors ce partenariat, on peut l'envisager selon deux paradigmes. Très souvent, du point de vue du ministère, on le décline au niveau national, régional, départemental, local. On essaie d'aider la mise en place des partenariats régionaux, par exemple. En 2008, la circulaire proposait un modèle, une trame de convention, DRAC, rectorat, collectivité territoriale, des objectifs, un programme d'action minimum. La circulaire sur résidence d'artistes en 2010 proposait un modèle de convention locale, hein, entre les acteurs locaux qui allaient nouer des partenariats pour mettre en place les résidences. On l'a fait sur d'autres dispositifs. Récemment, en septembre 2013, par la signature d'une convention entre Aurélie Filippetti et Vincent Payon sur un dispositif qui s'appelle un établissement, une œuvre, hein, pour l'exposition d'œuvres des FRAC à l'occasion des 30 ans des FRAC dans les établissements scolaires. Et cette circulaire proposait une trame de convention locale. Et puis, deuxième paradigme, et là je reprends la terminologie de Marie-Christine Bordeaux, le partenariat de réalisation, ce sont les acteurs locaux, le partenariat d'organisation et le partenariat institutant. Je n'ai pas tellement le temps de développer, mais je vous renvoie à cette référence. Je crois que c'est important qu'on le lise tous si on s'occupe de pilotage d'éducation artistique et culturelle. L'éducation artistique et culturelle, l'éternel retour, interrogation. Voilà, alors je passe, je n'ai pas le temps, hein. J'avais extrait la citation, enfin la définition plutôt du trésor de la langue française. Voilà donc le lien entre le partenariat et le parcours. Il manquerait le troisième P, et là je cite Emmanuel Vallon. Il parle des trois P de l'éducation artistique et culturelle, partenariat, projet, parcours. Il y a le F de la formation qu'on a beaucoup vu dans tous les textes depuis 30 ans. Le R de ressources et maintenant le N de numérique également. Tout ce que Marie Desplechin, qui a présidé, comme vous le savez sans doute, le comité de pilotage pour la consultation nationale sur l'éducation artistique et culturelle fin 2012, l'initiative d'Aurélie Filippetti, tout ce que Marie Desplechin a appelé, peut-être un peu excédé et découvrant l'institution, ce qu'elle appelait les Lego français. Nous avons tous ces Legos, ils servent bien, on essaie de bien les emboîter pour faire en sorte qu'au plan pédagogique et dans la relation de l'élève aux arts, il se passe des choses. Alors quoi de neuf avec le parcours? La question de l'éternel retour, hein, c'est la question de ce livre. On est sur un terrain problématique, problématisé, il n'y a pas de réponse. Réponse toute faite, ça me paraît évident. Est-ce que l'EAC, comme on l'appelle souvent, hein, quand on est technicien de la chose, est-ce que l'EAC est condamné à une relance permanente? Et puis actuellement, comme vous le savez, à l'éducation nationale, on refonde. Hein, on a une loi d'orientation de programmation sur la refondation de l'école de la République. On refonde. Ce qui se passe quand même, c'est important, hein, dans le texte législatif, c'est qu'on inscrit cette éducation artistique et culturelle dans le texte de loi. C'est l'article 10 qui a été codifié, c'est dans le code de l'éducation. Pour la première fois, l'éducation artistique et culturelle est dans la loi. Ce n'est pas rien. Le parcours est cité également. Et puis un développement assez important dans le rapport annexé de la loi, qui lui n'est pas codifié, hein, mais qui précise les enjeux de l'éducation artistique et culturelle et du parcours. Ce qui est nouveau également, à mon sens, c'est la configuration actuelle du ministère qui le veut, c'est la prise en compte de tous les temps de l'enfant. On a un ministère délégué à la réussite éducative. Hein, Georges Pollangevin est très soucieuse de faire les liens entre le temps scolaire, le temps périscolaire, le hors temps scolaire, hein, et ce n'est pas rien. Hein, ce n'est pas rien. J'ai discuté il y a quelques années avec une chef de bureau du ministère de la Jeunesse que je rencontrais, qui était un peu mon homologue, qui me disait « Vous me faites rire à l'éducation nationale, vous parlez des élèves et en plus parfois vous écrivez les élèves scolarisés. » Comme s'il fallait avoir toutes les précautions nécessaires pour dire qu'ici, on s'occupe essentiellement de l'élève, disons entre 8h30 et 16h30, et qu'au-delà, ça ne nous concerne plus. Je pense qu'actuellement, il y a une réelle prise en compte des autres temps, donc c'est le moment de faire progresser nos affaires. Mais finalement, rien de neuf à proprement parler, pourrait-on dire. Simplement, je pense, une forme de maturité dans les pratiques, une maturité qui permet d'envisager le parcours de formation de l'élève dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle comme un continuum. J'en arrive à mon deuxième point, je crois que je vais devoir accélérer. Alors dites-moi pour le temps, parce que sur le programme, moi j'avais 10h-11h, alors je sais bien qu'on a commencé un peu avant.
On a commencé à 10h-15,
oui. C'était une heure sur le programme, je suis désolé, je vais négocier. Mais je vous promets de ne pas déborder outrageusement. Voilà, il y a donc maintenant un ancrage solide. L'éducation artistique et culturelle est, comme on dit souvent, gravée dans le marbre de la loi, des tables de la loi. Dans le marbre également, en ce qui concerne les pratiques de pilotage, aussi une action pédagogique, qui est également confirmée. On sait que le président de la République a donné à la jeunesse une priorité, hein, c'est une de ses deux priorités avec la justice. Alors la politique jeunesse en particulier et l'éducation artistique et culturelle sont une affaire présidentielle, c'est important là aussi. Hein. Vous me direz, on pourrait citer la lettre aux éducateurs de Nicolas Sarkozy en 2007, hein, qui, dans certains paragraphes, insistait énormément sur la dimension humaniste en fait, de la formation d'élèves par l'éducation artistique et culturelle. Hein. Je peux m'amuser à ce jeu, hein, qui consiste à relativiser les textes, hein, évidemment, mais c'est une préoccupation, hein, au plus haut niveau, comme je le disais. Et puis même, dans les attributions du ministre de l'Éducation nationale, hein, c'est un texte sur lequel on ne s'arrête pas, mais il est à noter que pour Vincent Peillon, l'éducation artistique et culturelle figure dans l'article 1 de ses attributions, hein, de ce décret que vous pouvez trouver en ligne. Il n'y a que deux articles, c'est un texte très court, et il figure l'éducation artistique et culturelle. Il veille conjointement avec les autres ministres intéressés au développement de l'éducation artistique et culturelle, je cite, des enfants et des jeunes adultes tout au long de leur cycle de formation. Voilà, donc on est dans une période, disons, d'ancrage, hein, plutôt que relancer. On avait un plan de relance de l'éducation artistique et culturelle en 2005. 2008, c'était aussi en quelque sorte un plan de relance. Je pense qu'actuellement, on peut aborder la question avec cette question de l'ancrage. Par ailleurs, il y a une grande technicité de l'éducation artistique et culturelle, et je crois que vous faites partie, pour beaucoup d'entre vous, de ces spécialistes, hein, de l'éducation artistique et culturelle d'un point de vue technique, hein, comment monter un partenariat, comment concevoir un projet, comment régler toutes les questions à la fois protocolaires, politiques, mais aussi pratiques, organisationnelles, et puis travailler en même temps sur le fond, sur les objectifs. Hein. Voilà, je pense qu'il y a maintenant beaucoup de techniciens, beaucoup de spécialistes. Hein. D'ailleurs, très récemment, le directeur du cabinet de Vincent Peillon interrogeait des représentants des académies d'Île-de-France, de la région d'Île-de-France également, sur des questions d'EAC. Il leur demandait alors qu'est-ce qui se passe dans cette action ? C'est une médiation culturelle dans des lycées. Puis les personnes commençaient par lui répondre en disant alors on a fait une convention, on a de nombreux partenariats, on a des objectifs très clairs, et puis on pense déjà à l'évaluation, mais encore. Ça continue sur l'histoire technique, mais enfin, disait le directeur de cabinet, mais qu'est-ce qui se passe pour les élèves ? Qu'est-ce qu'ils vivent ? Vous voyez ? Donc il y a une habitude, il y a un réflexe, disons, à parler technique, et ça a vraiment toute son importance, mais à la fin des fins, même le directeur de cabinet du ministre, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention aussi, hein, alors moi je le dis pour moi en tout cas, hein, mais à pouvoir valoriser également, ou en tout cas avoir un discours qui aille à la fois sur la technicité, parce que c'est important, mais aussi à laisser la place aux sensibles, hein, même quand on est technicien. Parce que sinon, le risque, c'est que finalement, l'éducation artistique et culturelle reste le supplément d'âme, hein, et qu'on perde l'idée que ça puisse être quelque chose d'essentiel à la formation de l'élève. je passe les liens que je souhaitais faire. Le ACSO-Clé, là je cite, hein, c'est une déléguée académique à l'éducation civique et l'action culturelle qui le disait dans cette réunion qui a lieu vendredi dernier, hein, en disant c'est un affreux barbarisme, je suis désolé mais je vous le dis, pour moi l'éducation civique et culturelle est SO-Clé, c'est-à-dire dans mon académie, dans le discours, les messages que je fais passer aux personnes qui sont sous ma responsabilité, aux professeurs relais dans les structures culturelles, aux chefs d'établissement, je fais en sorte de montrer et de donner tous les indices, tous les éléments d'appréciation pour faire en sorte que tout projet d'éducation artistique et culturelle soit rattaché au socle commun de connaissances et de compétences, en termes de connaissances, d'attitudes, hein, d'aptitudes. Puis j'en ai oublié un, hein. Les collègues vont me rappeler. Alors ça, ce sera assez l'avenir, mais dans le socle actuellement, c'est connaissances, attitudes et aptitudes. Voilà, pardon. Capacité. Voilà, j'en viens à la question également, mais je crois que, comme M. Carlan en parlera ensuite, la question de l'intelligence sensible, hein, de l'intelligence sensible qui est un souci important pour les pédagogues, hein, et qui a été énoncé aussi là dans de nombreux textes. Je ne vais pas y revenir, hein, je n'ai pas le temps, hein, mais notamment par Jack Lang, hein, qui en a fait un élément important de son discours sur l'éducation artistique et culturelle. Hein. Alors le socle laisse la place à ces questions essentielles pour nous. Jack Lang disait « L'enfant ne peut connaître un épanouissement harmonieux et équilibré que si son intelligence rationnelle et son intelligence sont éduquées à parité. » L'intelligence sensible et l'intelligence rationnelle éduquées à parité. C'est ce que Didier Lockwood également, qui a été le vice-président pendant plusieurs années au Conseil de l'éducation artistique et culturelle, appelait la réunion du sensé et du sensible. Donc voilà une continuité dans l'approche de l'éducation artistique et culturelle. Alors d'où vient cette impression que l'éducation artistique et culturelle n'est pas considérée comme un enjeu majeur, hein, puisque la question reste. Hein. Alors cette citation, c'est une citation du directeur de l'Opéra de Paris, Nicolas Jouvel, en 2012, hein, qui, en montrant toutes les actions menées par son établissement, se posait cette question. D'où vient cette impression que tous ces efforts ne sont qu'un cautère sur une jambe de bois qui ne touche statistiquement, en définitive, une faible part des jeunes de notre pays. Jack Lang, lui, parlait 12 ans plus tôt du risque que l'EAC soit un luxe, une simple ornementation, hein, le fameux supplément d'âme. Alors que disent les chiffres? Le rapport des inspections générales de 2012, dont je parlais tout à l'heure, dit « De manière générale, les indicateurs ne portent pas sur les mêmes bases ou sur les mêmes termes, qui interrogent leur fiabilité, indicateurs de la culture et de l'éducation. » Et par exemple, un indicateur du ministère de la Culture affiche un taux moyen national de 22,6% d'élèves touchés par des actions d'éducation artistique et culturelle, tandis que le même chiffre pour le ministère de l'Éducation nationale est de l'ordre de 8%. D'autres notes, hein, notes que les administrations dont la mienne ont transmises à l'inspection générale, d'autres notes font état de 18% d'élèves touchés par l'éducation artistique et culturelle. Hein, somme toute, c'est peu, hein, de 8 à 22%. Hein, il y a encore un grand chemin à faire, et on pourrait à ce titre parler de l'échec de la généralisation. Alors les obstacles, les freins, hein, une terminologie qu'on emploie souvent dans les bilans d'activité. Alors les crédits, hein, est-ce que les crédits sont un obstacle au développement de l'éducation artistique et culturelle? Alors, je ne vais pas m'étendre longuement sur cette question, mais on a évidemment bien conscience de la difficulté de monter des projets avec des moyens extrêmement resserrés. Hein. Il y a un effet de seuil, hein, ça c'est une évidence. Hein. Je dois dire que je n'ai pas de solution dans ce domaine, et que dans un cadre de crédits, disons, globalisés, hein, qui vont vers les établissements scolaires, c'est au chef d'établissement, dans cette enveloppe globale, de choisir les actions prioritaires. L'enveloppe n'est pas extensible, évidemment. Et quelle est la part de l'EAC? On a des remontées statistiques, évidemment. Mais dans l'ensemble, l'exercice paraît assez difficile. La question de la formation, hein, la formation en volume, mais la formation également du point de vue de la qualité. Alors on recense les premières formations dans le domaine de l'EAC dans les SP, je ne vais pas vous donner la liste, hein, mais on a pu en repérer dans la plupart des écoles, c'est en train de se mettre en place, hein, même si on n'a pas de vision complète et synthétique de ce qui se fait, avec qui, hein, et avec quels objectifs, quelles visées. La question, ça reste de former à quoi, hein. Est-ce qu'on approfondit des compétences sectorielles? On va parler dans les ateliers cet après-midi de domaines particuliers, d'éducation à l'image, d'éducation musicale également, et dans la musique de secteurs là aussi très, très particuliers, très ciblés, mais il faut passer par là évidemment, hein, pour avoir une approche sensible, hein, mais ensuite on a des questions beaucoup plus générales également et transversales quand on est formateur. Et puis Monsieur Kerlan, j'ai bien noté que vous évoquiez l'importance pour un enseignant d'avoir lui-même une expérience sensible, hein, dans le cadre d'une formation, de pouvoir vivre une expérience esthétique. Hein, ça me paraît également très important, c'est-à-dire qu'il y ait du temps pour la sensibilité dans la formation d'enseignant et pas seulement pour des compétences techniques. Voilà, cela dit, donc rien n'est jamais acquis, hein, on le voit à tous les niveaux. On pourrait dire que les collectivités territoriales n'ont jamais été vraiment associées au plus haut niveau, hein, mais là c'est une difficulté, si vous voulez, d'organisation. Hein, on n'a pas de président des présidents de région. On a une association plutôt des régions de France, mais s'il faut avoir un dialogue, c'est avec chacun des 22 présidents de région. Hein, l'association qui rassemble les différentes régions n'est pas au sommet de l'organigramme des régions. Donc on peut avoir un dialogue, mais contractualisé, on ne pourrait le faire qu'avec chacune des 22 régions. Donc il n'y aura jamais, en tout cas dans la structuration actuelle de l'État et des collectivités, on n'aura jamais une convention unique entre l'État et les collectivités. Donc l'éducation nationale peut conventionner, faire un protocole, etc. avec la culture, mais avec la collectivité, ce n'est pas possible. Voilà, je passe. Alors il faut qu'on s'explique sur les termes, hein, on parle souvent de la boîte à outils des dispositifs, hein, c'est quelque chose de positif, hein, ce sont une boîte à outils, des leviers, hein, c'est la deuxième illustration. Et puis parfois on parle du millefeuille, ça c'est un peu plus négatif, c'est-à-dire une action morcelée, hein, on ne voit pas la cohérence, ça s'empile, ça peut s'empiler beaucoup, hein, voilà. On a tendance plutôt actuellement à envisager ces dispositifs comme une boîte à outils au service du parcours. Cela dit, il faut s'expliquer sur les termes. Tout à l'heure, j'avais une première approche du parcours avec un sens, disons, historique qui me paraissait très intéressant parce qu'il illustre le partenariat et la façon dont chacun, l'éducation, la culture, peut profiter des missions et du savoir-faire, du cœur de métier de l'autre. Hein. Mais là aussi, je reviens à ce que pouvait dire Marie Desplechin quand elle a été ébahie de découvrir que les différents acteurs éducatifs avaient un langage assez proche, mais évidemment ça frottait. On sentait que quand on dit éducation artistique et culturelle ou éducation culturelle et artistique, on est en fait très très loin, hein, et peut-être trop loin pour pouvoir pratiquer la veine pâture. Voilà. Alors il faut faire très attention, hein, je dois aller vite, je crois que j'ai plus que 5 minutes, mais il faut faire très attention au mot de parcours. Hein, les structures culturelles, et je ne jette pas la pierre, les associations également, celles qui sont partenaires du ministère que je rencontre très souvent, évidemment sont très soucieuses, non pas seulement d'être dans l'actualité politique, hein, mais plutôt d'être au plus près des enjeux éducatifs, et proposent des parcours. Des parcours au pluriel, hein, des parcours qui sont des offres éducatives sur un temps donné, sur une année scolaire, hein, trois visites, trois spectacles de danse par exemple, avec des rencontres avec les artistes sur une année scolaire. C'est un parcours. Hein. Je crois que pour les acteurs de l'éducation et les formateurs de l'éducation nationale, il est important de rappeler le singulier de parcours. Hein. Nous parlons du parcours de l'élève, de la maternelle au baccalauréat pour ce qui concerne l'enseignement scolaire, mais ce parcours, c'est le parcours d'un élève, c'est son parcours sur toute sa scolarité. À nous, à l'éducation nationale, d'en trouver les articulations, d'en trouver les différents objectifs dans les différents cycles d'apprentissage, hein, et à nous de rappeler aux partenaires, sans reproche évidemment, hein, que bah, pour nous le parcours c'est singulier. Ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel, hein, parce que la dérive est en train de se faire déjà. Alors il ne s'agit pas de jouer les redresseurs de tort, bien sûr, de corriger, hein, les brochures des partenaires, mais de rappeler fermement et simplement ce que signifie pour nous et ce qu'on investit dans ce parcours au singulier. Et à ce c'est peut-être le guide hein, pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle qu'a fait l'éducation nationale, hein, qui est un texte que vous pouvez trouver en ligne, qui est sur le site Eduscol. Hein, mais c'est bien le parcours. Alors, je vais passer rapidement sur les statistiques, et tant mieux, parce que c'est très, très ennuyeux, mais c'est important. Hein, c'est des statistiques très récentes, c'est le bilan qui a été fait par mon bureau sur les dispositifs, justement, nombreux dispositifs. Il y a quelques diapos, je vais les passer très vite, mais ça vous montre la façon dont on peut s'interroger sur les pratiques, hein, sur ce millefeuille. Alors, les conventions, les comités de pilotage, les différentes instances, l'évolution, hein, avant, après 2014... Les partenaires associés au pilotage régionaux, un recteur, préfet de région, DRAC, agriculture pour les lycées agricoles, ministère des sports pour la dimension jeunesse et sport, la ville évidemment, hein, les conseils régionaux. Je vous passe les conventions, hein, mais on a une vision assez précise hein, des conventions qui sont passées. Les conventions de jumelage. On voit la disparité là par exemple entre les académies. Hein. Il y a des politiques académiques qui sont énormément diversifiées. Les référents culture qui, depuis la rentrée 2010, sont, disons, les chevilles ouvrières de l'action culturelle dans les lycées professionnels également. Les volets culturels des projets d'établissement en forte progression, on atteint un taux de 85% à peu près. Les partenariats dans ce cadre, les résidences d'artistes. Bon, tout ça sera en ligne dans quelques semaines. Les classes projets artistiques et culturels, les ateliers artistiques. Les dispositifs d'éducation à l'image, école au cinéma, collège au cinéma, lycée apprenti au cinéma, c'est massif. Grande fréquentation, plus d'un million d'élèves. Les chorales, là aussi, beaucoup d'élèves. Et je passe. Voilà, je vous parlais des 1200 enseignants dans les structures culturelles, tout à l'heure. Voilà, la formation également, qui cible-t-on dans les formations? Ça, c'est issu donc des données académiques, de toutes les académies. Ce n'est pas avec des dispositifs, cela dit, que l'on fait une politique. Et là, je cite, je suis désolé, cinq minutes encore, je vais accélérer. C'était le propos du secrétaire général adjoint du ministère de la Culture et de la Communication dans cette formation hein, que j'animais vendredi dernier. Un discours très, très incisif hein, qu'on peut tout à fait entendre. Je vous parlais du singulier du parcours. Effectivement, on a besoin d'un axe, hein, d'une direction, et ce n'est pas l'empilement des dispositifs qui fait la construction du parcours de l'élève. Hein. C'est la boîte à outils, les dispositifs, ils ont leur importance. Ce sont les projets. Hein, le guide rappelle bien l'emboîtement, hein, le parcours de l'élève, son unicité, sa progression, la nécessaire cohérence, l'équilibre, la diversité des approches, des rencontres que l'élève va pouvoir avoir. Et puis ce parcours est fait de projets. Voilà. Donc là où souvent on a des offres de parcours, les parcours au pluriel, les parcours pour tous les cycles, je pense que c'est à nous de rétablir le mot projet. Ce sont des projets, bien sûr. Les projets ne diminuent pas la qualité de ce qui est mis en place, évidemment. Je pense qu'il faut être clair sur la terminologie pour être clair aussi sur les objectifs. Voilà, alors là ce sera très rapide, hein, mais de toute façon je ne comptais pas faire l'exégèse de l'éducation prioritaire hein, et de son inscription dans les textes relatifs à l'éducation artistique et culturelle, mais elle y est bel et bien. Hein. Dès 1993, on a ce type de mention avec la lutte contre l'échec scolaire en particulier, des questions de construction de la personne et de la conscience sociale. À la fin des années 90 également, quand Catherine Trottmann était ministre de la Culture par exemple, elle a mis en place en particulier les contrats, les CEL dans les zones d'éducation prioritaires. Avec donc une action commune de plus en plus avec le ministère de la Ville. Je passe les citations. Là, c'est une citation de Jack Lang en 2000. Où on fait le lien, mais c'est important de voir comment se fait le glissement de l'éducation artistique et culturelle à des questions beaucoup plus larges, sociales, de lutte contre les violences, de remédiation. le lien avec la vie citoyenne, l'intégration sociale, la lutte contre les inégalités. Et là, je reviens à ce que je disais en introduction. Dans l'organigramme du ministère, on a cette proximité avec les questions de citoyenneté, de lutte contre les discriminations, de violence, etc. C'est pas anodin. Je passe. Voilà, un constat, cela dit, globalement négatif. C'est le rapport de l'inspection générale de 2012 qui le dit. Il y a une forme d'échec quand même, c'est-à-dire qu'on constate que les élèves relevant de l'éducation prioritaire sont en général moins touchés que les autres par les dispositifs d'éducation psychiculturelle. Les chiffres le montrent et le montrent presque systématiquement pour tous les dispositifs. Alors, je vous passe les détails, mais récemment, en janvier, Vincent Payon a exprimé le souhait de diminuer cet écart. Je ne peux pas vous donner les exemples de ce rapport des inspections générales. Le deuxième point, c'est Vincent Payon qui le dit. Ce n'est pas en isolant ceux qui sont en difficulté que l'on améliore l'ensemble du système éducatif. Alors, je vous renvoie à tout ce qui a été programmé sur l'éducation prioritaire. Et la nécessité d'un continuum entre ce qui se fait dans l'école et en dehors de l'école. Ça, c'était le propos de Georges Paul-Angevin. Alors finalement, ce que peut l'EAC, j'ai deux catégories qui sont celles énoncées par Marie-Christine Bordeaux, mais qui viennent de recherches dans le domaine de la sociologie de l'art et de l'approche d'éducation psychique et culturelle. Nous avons deux types de valeurs, les valeurs inspirées, les valeurs esthétiques, des questions qui sont relatives vraiment à l'art, il s'agit de qualité artistique, de définir et d'approcher la spécificité de la démarche artistique. Et de l'autre côté, sa valeur civique, sa valeur démocratique, dont on parle de plus en plus dans les textes depuis une quinzaine d'années, égalité d'accès à la culture, démocratisation de l'art, droit à l'éducation, identité collective, vivre ensemble, héritage, sens commun. Nous sommes en tension entre ces deux types de valeurs. Elles sont coprésentes et elles doivent être notre souci constant. Je ne sais pas dans quelle proportion, c'est peut-être pas moi de le dire, mais nous devons les avoir à l'esprit. Là, je n'ai pas le temps de développer, mais je voulais rendre compte simplement des travaux préparatoires à la politique de l'éducation prioritaire telle qu'elle a été définie il y a un mois. Il y a une prise en compte dans ces travaux de la dimension de territoire, alors des partenariats dans tous les domaines, pas seulement artistiques et culturels, mais tous les partenaires de l'école dans un réseau d'éducation prioritaire, tous les partenaires qui peuvent concourir à l'amélioration de la vie des élèves dans le cadre scolaire et à leur parcours de formation générale. Prise en compte de la dimension de territoire et la nécessité de prendre du temps également. Je crois que c'est assez important que ça ait pu être dit dans le cadre de ces concertations, parce que tout ça demande du temps de concertation, du temps d'échange entre les différents acteurs. Alors, je ne pourrais pas citer malheureusement, mais je vous en recommande la lecture et vous connaissez peut-être le texte « L'urgence de l'art à l'école » de Pascal Collin. Il y a deux très belles pages sur une expérience d'atelier théâtral qu'il a conduit. Il montre toutes les traces qu'a pu laisser cet atelier et tout ce que ça a pu induire sur le territoire, vraiment, fait en dehors du cadre scolaire. Et le projet s'appelait « Ceux d'ici ». Voilà, et j'en arrive à ma conclusion. Je voudrais insister sur ces quelques notions. Le savoir, la pratique, la rencontre, ce sont trois éléments importants du parcours d'éducation artistique et culturelle. Alors, je ne vous ai pas fait la paraphrase de la circulaire, ce que je voulais éviter, l'objectif est atteint, parce que je ne l'ai même pas cité du tout, mais je pense que vous la connaissez par cœur. Il est important, donc, dans nos objectifs d'éducation artistique et culturelle, d'avoir présent ces trois aspects, du savoir, de la pratique, de la rencontre, mais on peut avoir d'autres déclinaisons, qui sont éprouver, faire, réfléchir, c'est ce que proposait l'inspection générale à cette réunion dont je vous parlais vendredi dernier. Ce que Marie-Christine Bordeaux, dans son livre, développe d'une manière très intéressante à travers cette approche, voir, faire, interpréter. Voilà, alors comment ces trois dimensions d'éducation psychique et culturelle pourront-elles s'inscrire dans le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture? C'est pas rien. On avait jusque-là un pilier 5 qui était le pilier culture humaniste. Et puis on va avoir un nouveau socle où la culture est ajoutée aux connaissances et aux compétences. Donc je n'ai aucune idée de la structure de ce nouveau socle. Le Conseil supérieur des programmes y travaille, et c'est une bonne chose. Il le fait avec toute son indépendance et toute son expertise. Mais nous découvrirons tout cela dans quelques mois, vous et moi. Il n'y a aucune, rien de filtre, disons. Mais on a besoin d'un référentiel, c'est clair. D'où le titre de mon intervention. Nous sommes à mi-parcours, parce que nous avons déjà ces valeurs, ces objectifs, ces compétences. C'est énoncé, le socle, le pilier 5 du socle reste tout à fait valable, bien sûr. Mais tout cela va être précisé, évidemment, dans le cadre du nouveau socle. Donc pour ça aussi, je pense qu'il nous faut un peu de temps. Reste la question également du nombre d'élèves touchés. Peut-on vraiment généraliser? Est-ce qu'on peut dire que par l'inscription de l'histoire des arts, mais que viendra l'histoire des arts, dans le travail du CSP, est-ce qu'on peut dire que l'inscription dans les enseignements vaut généralisation? Pas forcément, parce qu'on sait bien que l'histoire des arts ne permet pas toujours dans la pratique la rencontre avec les artistes et les œuvres et la pratique artistique. Voilà, enfin ce que nous visons, et là je reprends également le propos d'une déléguée académique vendredi dernier, nous tentons de construire l'honnête homme du 21e siècle, ce n'est pas rien. Voilà, donc je pense qu'il faut envisager les choses avec cette visée et cet espoir. Voilà. Je vous remercie.